Vigilance OGM milite à la base pour l'identification obligatoire des aliments contenant des organismes génétiquement modifiés. Mais qui dit OGM dit automatiquement usage de pesticides spécifiques. On modifie les plantes pour qu'elles résistent à un ou des pesticides, alors que les autres plantes meurent tout simplement. L'agent chimique le plus utilisé dans les herbicides est le glyphosate. Thibaut Rennes, coordonnateur de Vigilance OGM.
On a testé juste le glyphosate, qui est l'agent actif du principal pesticide vendu à travers le monde, le Roundup. Il représente 40% de toute la vente des pesticides au Québec dans le monde agricole, d'après le dernier bilan des pesticides, mais aussi c'est le plus vendu dans le monde. Après 25 ans, les premiers OGM étant arrivés à peu près en 95, après 25 ans, 87% de tous les OGM vendus dans le monde sont faits pour tolérer un herbicide. Dit Total, dont le Roundup. Mais à terme, qu'est-ce que ça a fait, ce modèle-là agricole? C'est que ça a fait utiliser beaucoup plus de glyphosate. Ça a fait utiliser aussi, malheureusement, d'autres herbicides maintenant, parce que sur le marché au Québec et dans le monde, on n'a pas uniquement des OGM résistants au glyphosate, mais maintenant résistants au glyphosate de 4D ou dicamba. Donc ça montre bien le modèle qui s'emballe, un cercle vicieux des pesticides. Et donc il faut savoir aussi qu'au Québec, on plante énormément d'OGM. La moitié des surfaces agricoles au Québec, si on exclut le foin, est plantée avec des surfaces OGM, donc soya, maïs principalement, et un petit peu canola.
40 analyses d'urine ont été effectuées. 26 d'entre elles montrent la présence de glyphosate. Et cela va de 0,29 microgrammes par litre à 3,4 microgrammes par litre chez un agriculteur utilisateur de glyphosate. Un autre agriculteur, Serge Giard, atteint du Parkinson et aujourd'hui devenu producteur biologique, témoigne.
J'ai accompli ma conversion au bio en 2000, donc je me suis passé des pesticides et ainsi j'ai accentué la rentabilité de ma ferme. À mon avis, le gouvernement devrait prendre des actions concrètes dans un premier temps afin d'augmenter de façon significative le financement de la recherche et du transfert technologique sur les fermes pour une diminution d'utilisation des pesticides. Dans un deuxième temps, ainsi que la prévention et la reconnaissance des maladies chez les agricultrices et les agriculteurs suite à l'utilisation de ces pesticides. J'ai collaboré à l'analyse du glyphotest ainsi que deux de mes collègues agriculteurs en conventionnel. On n'a pas trouvé de traces de glyphosate dans mes urines, alors qu'on en a retrouvé le maximum dans celle de M. Malouin, agriculteur, tandis que l'autre agriculteur a la quatrième plus grande concentration de cette enquête. Malheureusement, ce n'est pas surprenant que les agricultrices et les agriculteurs utilisateurs de ces pesticides soient les plus exposés.
Le dossier du glyphosate a de quoi inquiéter. Les poursuites se multiplient à travers le monde, particulièrement aux États-Unis. Un tableau de la situation avec le docteur Eric Notteberg de l'Université de Montréal et de l'Hôpital Sacré-Cœur, de même que vice-président de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement.
Pour nous, c'est inquiétant. C'est inquiétant le fait d'avoir du glyphosate dans les urines. Ça veut dire que c'est un marqueur d'une soupe à laquelle on est soumis. Il ne faut pas oublier que le glyphosate, le principe actif, est associé à énormément de produits chimiques associés. Et on pense que le Roundup ou les pesticides comme tels sont plusieurs centaines, voire mille fois plus toxiques que le glyphosate comme tel. Et entre autres, il y a un des produits chimiques, le POEA, qui est interdit en Europe, qui est encore accepté dans nos herbicides ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les études animales? Ben, en fait, les compagnies, c'est simple, ils soumettent des rats et des rats au glyphosate à petite dose pendant 90 jours, ils sacrifient les animaux et si les animaux n'ont pas de maladie, ben, on juge qu'il n'y a pas de problème pour la santé. Or, nous ne sommes pas des rats, nous ne sommes pas des rats qui vivons 90 jours. Et quand on utilise le même modèle à des petites doses quotidiennes d'exposition pendant 2 ans, là, on se rend compte que les animaux ont beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Je vais vous les exposer. Beaucoup de problèmes hépatiques et rénales. Le foie et le rein détoxifient nos urines. Beaucoup de problèmes au niveau du sang, des cancers du sang, leucémie, lymphome, atteinte neurologique, ce qu'on appelle une peroxydation des lipides, une atteinte des lipides du cerveau et de la substance noire, ce qui a des conséquences. Un effet de perturbateur endocrinien, même à basse dose, donc avec une atteinte des organes reproducteurs mâles et femelles, une atteinte de la spermatogénèse, du tissu mammaire, Et c'est intéressant de voir que non seulement le glyphosate est un cancérogène probable, hein, c'est l'état plus que possible, c'est un cancérogène probable, le glyphosate aussi est génotoxique, ce qui veut dire qu'il peut s'intégrer à notre ADN, d'où tératogénicité, atteinte de malformations cardiaques, squelettiques et autres. Un autre élément qu'on oublie souvent, c'est que le glyphosate a été marketé comme antibiotique à large spectre dans le passé, ce qui veut dire qu'il atteint le microbiote et il détruit des bactéries intestinales utiles. Et ça, ça a des conséquences à long terme sur plusieurs organes. En fait, le glyphosate induit une inflammation de tous les tissus, d'où l'ensemble des tissus qui sont atteints. Ce qui est intéressant, les animaux de ferme, en fait, on a retrouvé du glyphosate non seulement dans leur urine, mais quand on les sacrifiait, dans tous leurs tissus. Ce qui veut dire que le glyphosate, on ne fait pas que le gober, passez-moi le mot, et l'uriner. Le glyphosate s'intègre dans tous nos tissus progressivement. Le glyphosate a aussi la capacité d'empêcher plusieurs mécanismes de détoxification au niveau hépatique et rénal, d'où l'impact sur plusieurs tissus. Alors, qu'est-ce qui est démontré chez les humains? C'est une association entre le glyphosate et, entre autres, le lymphome non-Hodgkinien, qui est un cancer du sang, avec des milliers de victimes au Canada, aux États-Unis et en Suède, et une corrélation claire entre l'utilisation du glyphosate et ces lymphomes-là, et plutôt plus de 100 000 poursuites contre Monsanto aux États-Unis en ce moment, cet effet-là. Aussi, une hausse du myélome multiple, qui est un type de cancer du sein en association avec la hausse du glyphosate. Une augmentation du déficit d'attention chez des enfants de fermiers au Minnesota qui a été bien rapportée et une hausse du Parkinson et de l'autisme qui ont été rapportés aussi en parallèle avec la hausse du glyphosate. En fait, c'est intéressant, il y a un papier qui est sorti il y a quelques années qui montre une corrélation impressionnante entre l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, des problèmes d'hypertension, d'AVC, de diabète, d'obésité et la hausse importante du glyphosate depuis les années 90. Ce qui est intéressant, c'est que ces maladies apparaissent maintenant dans des populations plus jeunes. Alors, quand on regarde l'évolution de ces maladies-là, elles sont soit stables, soit légèrement en hausse, soit légèrement en baisse, mais à partir des années 90, en parallèle avec la hausse du glyphosate, on a une hausse de ces maladies-là. Alors, on peut dire que c'est juste une corrélation. Certains auteurs parlent vraiment d'une relation de cause à effet. Et quand on regarde, en fait, la corrélation est à plus de 95 %, ce qui est très, très significatif. Donc, il y a des populations fragiles, les agriculteurs, agricultrices, leurs enfants, leurs conjoints, conjointes qui vivent dans ce milieu-là. Et malheureusement, on n'a pas de grande étude épidémiologique au Québec qui suit la santé de ces gens-là. Les femmes enceintes sont particulièrement fragiles et les petits-enfants parce qu'elles absorbent plus de produits toxiques que les adultes. Ce que les Anglais appellent les crawlers, les rampants, là, les 2-3 ans, c'est les pires. Ils sont à terre tout le temps, ils mettent tout dans leur bouche et ces enfants-là sont particulièrement exposés. Les normes, c'est assez incroyable de voir que la norme dans l'eau potable au Québec, au Canada, est 3000 fois plus élevée que la norme en Europe. Donc, 280 micromoles par litre versus 0,1 micromole par litre. Pourquoi? Parce qu'en Europe, c'est le principe de précaution qui prime et ici, ce qui prime, c'est l'analyse coût-bénéfice. Il y a d'autres points. Le glyphosate et son métabolite, l'AMPA, se retrouvent dans l'air, dans la pluie, dans l'eau de surface, dans les eaux des nappes phréatiques, et c'est inquiétant. Ça induit une perte de biodiversité, un appauvrissement des sols et une diminution des populations d'insectes, d'oiseaux pollinisateurs et même de mammifères, ce qui a été rapporté au Nouveau-Brunswick. Tout ceci contribue au changement climatique, qui est le problème de santé numéro un de la planète avant le COVID. C'est les changements climatiques qui sont le problème de santé numéro un de l'humanité. Le glyphosate, on l'a dit, on a dans plus de 90 % de nos cours d'eau agricoles au Québec. Mais on a d'autres problèmes, des problèmes avec nos gouvernements. L'ARLA, qui est l'Agence de régulation des produits agricoles, est sous le chapeau de Santé Canada, tout comme l'agence qui régule les médicaments, et fait un travail beaucoup moins rigoureux que l'agence qui régule les médicaments. En 2017, en Europe, on a reconduit le glyphosate pour une période de 5 ans. Certains pays voulaient 3 ans, mais on a décidé de reconduire le glyphosate pour 5 ans jusqu'en 2022, le temps, parce que les études commencent à sortir qui sont inquiétantes, ils se sont dit « on va se donner 5 ans ». À ce moment-là, au Canada, au Québec, comme aux États-Unis, on a reconduit le glyphosate pour 15 ans, ce qui nous semble irresponsable. Et on trouve, et on n'est pas les seuls, que l'ARLA, dans le fond, se fie sur des études anciennes, beaucoup d'études de compagnies de pesticides. L'ARLA a rejeté du revers de la main beaucoup d'études indépendantes de scientifiques universitaires pour des raisons qui nous semblent assez fallacieuses. Et l'ARLA regarde toujours le glyphosate, le principe actif, et pas l'ensemble de l'herbicide ou du pesticide, comme je vous dis, qui est plusieurs centaines de fois plus toxique que le glyphosate. En 2022, normalement, en Europe, on va revoir la question du glyphosate. Il nous semble un minimum que l'ARLA, si on veut qu'elle ait un peu de crédibilité, revoie la question du glyphosate d'ici 2 ans et n'attende pas 12 ans. Il y a d'autres problèmes. L'Agence canadienne d'inspection des aliments ne fait pas de suivi régulier au niveau de beaucoup d'aliments, de glyphosate dans les légumes, dans les aliments pour les enfants, dans plusieurs aliments. C'est une lacune. Et au Québec, on a un sérieux problème avec le MAPAC. Il y avait une politique de diminution, il y a toujours une politique de diminution des pesticides, c'est un échec total. La vérificatrice générale du Québec l'a constaté en 2016. Donc, le MAPAC est actuellement incapable d'aider les agriculteurs et agricultrices à avoir des pratiques de développement durable conséquentes. Alors, notre conclusion à nous est simple. Comme professionnels de la santé, c'est une situation qui nous inquiète. On expose des populations à des produits avec des risques à long terme qui sont encore inconnus, mais avec des signaux très inquiétants en ce moment. Et le principe de précaution doit prévaloir, comme il doit prévaloir dans tout ce qui est toxicité environnementale. Alors, on pense et on revient avec les conclusions qu'on avait à la Caperne il y a peu de temps. Il faut obliger les compagnies à préciser leur formulation, ce qui se fait dans certains pays. Il faudrait avoir un portrait précis de l'utilisation des pesticides au Québec avec des déclarations obligatoires des volumes des ventes. Il faut absolument faire des études des populations à risque et il y a des instituts qui font ça au Québec, je pense entre autres au CREPA, à l'UQAM. Donc, c'est des gens qui sont capables d'étudier, de faire des études épidémiologiques à long terme. Ils ont besoin de sous ces groupes-là. L'ARLA devrait refaire ses devoirs sérieusement et devrait reconsidérer le glyphosate d'ici 2 ans. Pour ce qui est du MAPAC, les objectifs devraient être beaucoup plus courageux, encourager les agriculteurs à une transition vers une agriculture intégrée, biologique, sans pesticides de synthèse, avec un soutien financier sérieux, avec un transfert de connaissances et une sensibilisation du milieu. Au niveau des professionnels de la santé, on a aussi des choses à faire. Malheureusement, c'est très méconnu. C'est très méconnu des médecins, tout ceci, même des médecins qui travaillent en milieu agricole. Donc, c'est quelque chose à quoi on s'emploie à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, à sensibiliser les médecins, les pédiatres, les spécialistes du développement. Il faudrait qu'on arrive à faire plus de diagnostics, dépister mieux, signaler les cas, aider les malades dans leur recours et collaborer avec les études épidémiologiques. Donc, en résumé, c'est inquiétant. Même si les niveaux ne sont pas très élevés, c'est un marqueur qu'il se passe quelque chose et qu'il se passe quelque chose avec des produits qui ont un impact à long terme sur nos tissus et sur notre santé. Et il ne faut pas attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans de réaliser les conséquences de ce qu'on a fait pour se dire on aurait donc dû pas utiliser ces produits-là.
Ici Lionel Levac. Alors, ajoutez donc ces informations à votre propre analyse du glyphosate et, de façon plus globale, du dossier des pesticides. Au revoir.